Je voulais juste réagir et puis voilà, émettre une hypothèse. Réagir d'abord sur, effectivement, moi j'anime depuis plusieurs années des stages sur, en formation continue hein, sur ces questions-là. Et c'est vrai qu'il y a un allant de soi absolument terrible de toute façon, on a une obligation à donner des devoirs. Là, moi, je me suis complètement retrouvée dans ce que vous dites. J'ai le sentiment, mais peut-être que c'est un sentiment complètement intuitif, de toute façon, absolument pas étayé par une recherche, que la mise en place de l'accompagnement éducatif, avec toute la difficulté, surtout aujourd'hui, où du jour au lendemain, on se retrouve les crédits coupés et qu'on ne sait plus trop comment les choses vont se faire, j'ai quand même entendu des profs dire « Ah, tout d'un coup, je me rends compte des implicites de travail que propose mon collègue. » Et quand il y a un collectif de travail, je me permets d'aller lui demander ce que vous disiez, là, la boucle de travail. Et je l'ai rencontré et dans de nombreux établissements, qui n'étaient pas forcément dans l'éducation prioritaire, plutôt dans des milieux ruraux, qui n'avaient pas forcément d'habitude collective. Et j'ai le sentiment que, comme on était sur la tâche, ça les a amenés effectivement à être peut-être un tout petit peu plus réflexifs. Mais enfin bon, voilà.
Ce qui peut se passer aussi dans le premier degré avec la mise en place de l'aide personnalisée ou au-delà des, comme disait Christine ce matin, au-delà des présupposés idéologiques au départ, le fait que les enseignants s'y mettent malgré tout modifie aussi un certain nombre de choses qui du coup...
Je n'ai pas écouter la première conférence parce que je suis arrivée en retard et je vous prie d'excuser. Alors sur la deuxième intervention notamment, je trouve que vous avez annoncé votre conférence sous le thème de l'accompagnement et de toutes les difficultés que cet accompagnement pouvait engendrer et pour les acteurs et pour ceux qui étaient intéressés, les élèves. J'ai trouvé que vous n'avez pas bien fait la distinction entre l'accompagnement éducatif, l'accompagnement personnalisé. Vous avez glissé immédiatement sur l'aide personnalisée, il me semble. Et que de ce fait, de ce glissement, vous avez traité de l'externalisation, alors qu'en fait, l'aide personnalisée, elle est réalisée par les enseignants. Alors que l'accompagnement éducatif est réalisé par des intervenants qui ne sont pas des enseignants et qui sont divers. Et ça ne concerne pas non plus que l'aide au devoir et la remédiation, puisque si on parle d'accompagnement éducatif notamment, il y a d'autres activités sportives, culturelles, etc. qui sont impliquées. Et pour faire le lien avec la réforme du lycée, tout ce que vous avez pu dénoncer dans le cadre de l'aide personnalisée qui est réalisée par des intervenants qui ne sont pas les enseignants, devrait être remédié, on devrait remédier à ça, puisque dans la circulaire du 4 février de la réforme du lycée, on intègre dans l'emploi du temps des enseignants les 2 heures d'aide, d'accompagnement personnalisé, alors que ça s'appelle aide personnalisée dans le primaire.
Mais justement, c'était la précision peut-être qui peut nous interroger. Est-ce que le fait que l'accompagnement personnalisé du lycée professionnel, l'aide personnalisée, soit faite par des enseignants, supprime la question de l'externalisation.
Oui, enfin, c'est pas tout à fait cette question, mais je la reprends sous une autre forme par rapport à ce que dit Patrick, là, et ce que vous avez dit précédemment. Vous avez à un moment donné parlé, je crois, monsieur Rayou, des didactiques familiales, hein, en citant les travaux de votre collègue hein, qu'on avait vu au premier stage. Et puis en même temps, la situation que vous nous avez montrée, Madame Félix, sur l'aide personnalisée, c'était un cas assez particulier parce qu'on avait des enseignants qui, alors même s'il y a plein de choses à en dire, mais qui avaient des élèves qui étaient dans leur propre classe. Alors voilà où je veux en venir à partir de ça. C'est que, est-ce qu'on pourrait pas parler aussi de didactique enseignante sur le même registre que des didactiques familiales? Je m'explique un peu plus. C'est-à-dire, je ne suis pas persuadé que quand même un enseignant est un spécialiste de la discipline, c'est-à-dire quand il est sur son champ disciplinaire, et que sur le temps d'accompagnement ou d'aide au travail personnalisé, que ce soit d'ailleurs dans le premier degré là, ou dans le second degré, il a affaire à des élèves qui ne sont pas de sa classe, Donc, à des élèves pour lesquels il y a des tâches ou des exercices ou des activités d'enseignement qui ont été proposées, qui ne correspondent pas à ces choix didactiques, qu'on n'ait pas ce même genre de phénomène. Je vais vous en donner un exemple concret. J'ai travaillé dans l'accompagnement à la scolarité, il y a très longtemps, dans les années 80. Enfin, même avant, ça s'appelait les AEPS, que vous n'avez pas cité en sigle, accompagnement, pour les plus anciens, et qui ont perduré assez longtemps. En tant qu'enseignant, il m'arrivait fort fréquemment dans le centre social où j'étais militant à l'époque, plutôt citoyen et politique, on va dire, pas en tant qu'enseignant, mais j'avais quand même une identité professionnelle d'enseignant, un certain nombre de compétences et d'incompétences. Il m'arrivait très fréquemment de me retrouver en situation extrêmement difficile quand j'avais affaire à du travail personnel donné à un certain nombre d'élèves, parce que la nature même du travail exigé pour ces élèves, même si j'arrivais à en comprendre les implicites ou les objectifs qu'avait l'enseignant derrière, et qui pouvaient être très variables, je souscris à votre analyse que vous avez fait, monsieur Rayou, c'est que d'un point de vue didactique, j'étais en désaccord complet avec les choix effectués. J'ai vu des trucs qui, pour moi, c'est pour ça que l'accompagnement, enfin, la prescription, parfois, on en a peut-être besoin aussi. Tout ne se vaut pas. Moi, j'ai un point de vue très catégorique là-dessus. Tout ne se vaut pas. Je suis désolé, j'ai vu par exemple, je me souviens, j'avais besoin de travailler avec des élèves sur la problématique, par exemple, sur l'enseignement de la division. Mais moi-même, j'étais complètement démuni. Parce que ce qui était proposé, je n'en comprenais rien, je n'en voyais pas l'intérêt didactique, et je me voyais mal reproposer une nouvelle situation d'apprentissage dans ce cadre-là. Donc, vous voyez, ces difficultés-là, ce nœud-là, je crois qu'il est présent, quel que soit même notre domaine qu'on est le plus compétent. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant, là, dans votre début de typologie, c'est ce recyclage que fait un de vos trois accompagnateurs de retour vers la classe et l'enseignant même. Et ça m'a fait penser, déjà, aux travaux de Glassman, il y a fort longtemps là-dessus, qui le pointait d'ailleurs, qui disait qu'il y avait non seulement cette création d'un espace tiers pour les enfants élèves, c'est-à-dire ne pas être avec les parents et ces logiques de conflit, mais aussi un espace tiers qui, à un moment donné, pouvait renvoyer vers l'école elle-même ces questions-là. Voilà, c'était une réflexion plus personnelle.
Moi, c'est plutôt un constat quand on interroge les enseignants sur leur participation à ces dispositifs. Beaucoup disent qu'ils se sont réconciliés avec leur métier d'enseignant parce qu'ils ont justement le sentiment d'enseigner réellement, mais du coup, ils ont mis à jour des difficultés, par exemple, d'analyse des difficultés des élèves. Ils ont mis à jour des limites, en fait, de compétences et ils se trouvent très, très démunis sur d'un coup, je peux faire enfin mon métier, mais finalement, je me rends compte que je ne sais pas le faire.
D'abord un petit point, vous avez vu que les gens ont souri tantôt quand vous avez parlé de Calon et la Tour, c'est quand même l'entombe, mardi après-midi a fait un exposé particulièrement brillant sur les auteurs. C'est vraiment une des plus belles illustrations des théories de Calon et la Tour en éducation que personnellement j'ai vu. Premier point. Deuxième point, vous m'avez fait rire avec votre commentaire sur le compagnon qui partage le pain, donc qui est horizontal, alors que sa tâche est plus verticale, ce qui m'a un peu ramené aussi au Colette Mérigny qui définissait le terme partenaire. Je ne sais pas si la définition est assez connue, mais le terme veut dire deux choses à la fois. Ça peut être celui qui veut se rapprocher de toi pour te tuer, c'est le terme premier. Et le deuxième, c'était celui qui s'approche de toi pour t'aider. Et le terme porte cette ambiguïté-là, je trouve, de très très jolie manière, parce que réussir, si tous parlent en termes de « on veut avoir des partenaires », être partenaire n'est pas un geste si simple que ça. Ce qui m'amène à mon exemple, les gens savent que je raconte des anecdotes et que je viens du Canada, alors je raconte une anecdote et je viens du Canada. J'ai fait donc une évaluation à la fin des années 90 d'un programme d'aide aux devoirs dans une école secondaire montréalaise, et je ne sais pas si c'est le cas en France, mais je sais que chez nous, une école secondaire de milieu défavorisé où il y a beaucoup beaucoup d'élèves, ça s'appelle une république d'intervenants. Le nombre de professionnels, de spécialistes, d'aidants et de tout ça, c'est fou. On a des conseillers pédagogiques, on a des enseignants évidemment, on a des assistants aux devoirs, on a des coordonnateurs aux assistants aux devoirs, on a des stagiaires, on a des directeurs qui supervisent, des co-directions qui supervisent des directions, des directeurs principaux, et tous ces gens-là se voient, se réunissent. C'est, au Québec, on a une industrie qui est très très populaire, c'est la scierie, parce qu'on fait plein de tables de conversation, on a beaucoup beaucoup de tables, donc ça donne beaucoup beaucoup de travail aux gens de la construction. L'idée donc est la suivante, c'est qu'on s'est aperçu très rapidement que les gens se parlaient pour ne pas se parler. En fait, l'enseignant ne donnait pas de devoirs, ou à peu près, mais bon, comme il y avait un programme de devoirs, alors il fallait qu'il en donne, mais il en donnait un pour en donner un. Et là, il s'apercevait que les intervenants arrivaient, dans l'aide aux devoirs, apprenaient des choses aux enfants qui n'étaient pas de l'ordre du curriculum. Alors là, il paniquait, il allait voir sa direction et tout ça. Il y avait énormément de tensions et ça s'est résolu, vous imaginez comment. La direction principale, en fin de session, s'est dit, bon, apparemment, mes élèves n'ont pas eu les devoirs qu'ils devaient avoir sur la matière qui devait faire objet de devoirs. Alors, elle a réuni tous ses élèves pour faire, pendant les fins de session, les grands trucs du vendredi, du samedi, magistral, où elle a repris tous les cours de toutes les matières pour elle-même expliquer ce qu'il fallait retenir à l'examen. Ma question est la suivante, est-ce qu'il est si facile que ça à l'intérieur d'une école de conduire partenariat entre intervenants de même groupe ou intervenants de groupes professionnels différents? Est-ce que c'est quoi les principaux nœuds que vous identifiez dans ces conduites de partenariat-là?
Enfin, déjà une toute petite remarque sur le mot dispositif, parce que j'ai vu un article récemment qui associait dispositif et disposition. Au sens où il y aurait des choses qu'il faudrait poser parce que ça correspondrait à des choses que sont déjà les personnes qui viennent. Hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre dans le dispositif d'aménagement de l'environnement pour correspondre à des dispositions déjà, enfin en soi déjà présentes, quoi. Donc voilà, c'est une première réflexion là-dessus. Ensuite, il y a une vraie question, me semble-t-il, effectivement, sur le dedans dehors. Patrick Rayou a beaucoup insisté sur l'externalisation, mais on a bien vu aussi dans le premier, dans la première intervention, que le dedans dehors était largement remanié, quoi. C'est-à-dire que c'est pas suffisant d'être dans la classe. Enfin, c'est pas suffisant. Disons, il ne suffit pas d'être dans la classe, dans la salle classe, pour être dedans. Il semblerait même qu'il ne suffise pas d'être avec l'enseignant pour être dans le dedans. Alors, dans le dedans de quoi? Au bout du coup, au bout du bout. Et j'ai trouvé une petite chose qui m'intéresse, c'est pas la solution bien évidemment, mais dans ce que Christine a dit à un moment donné sur l'histoire cognitive de l'activité dans la classe. L'histoire cognitive de l'activité de la classe. L'histoire cognitive et collective, c'est-à-dire de la classe au sens du groupe classe, quoi. C'est-à-dire que l'élève aurait besoin, enfin, si on essaie de trouver l'interne, hein, pour travailler l'externe, aurait besoin d'une continuité historique des activités cognitives de la classe, du groupe classe, et que d'opérer ces dissociations entre à des moments différents avec des personnes différentes, ce qu'a dit le collègue, hein, en disant moi quand j'ai reçu la proposition didactique, ça ne me convenait pas. Il y a quelque chose que je ne comprenais pas de la proposition qu'avait faite l'enseignante. Pour être moins vindicatif sur le fait que sa proposition était nulle et que didactiquement elle était non conforme. Hein, voilà, il y a une incompréhension de ce fil historique de la construction cognitive. Qui est en jeu dans la répartition du travail avec les autres intervenants. En quoi ils comprennent le parcours non pas seulement de l'individu élève, parce que ça, à la limite, on pourrait se dire, ben, si on comprenait bien l'individu, alors, et si on prenait du temps, alors, on pourrait l'aider, mais il se passe quelque chose d'autre, enfin, l'interne, c'est non seulement le parcours de l'individu, mais dans l'histoire du groupe classe. Et du cheminement proposé par l'enseignant au fil des séances. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et alors, je voulais intervenir sur une toute petite dernière chose aussi. enfin, qui ne me paraît pas être tout à fait une dernière chose, toute petite en tout cas. Puisqu'on en a discuté hier soir sur l'ouverture des espaces de possibles, là je reprends le point de vue sur l'enseignant, et sur ce que tu as dit du rôle des controverses, le fait de développer les controverses entre enseignants, alors que Lucria utilise la vidéo, utilise les autoconfrontations, mais pas nécessairement les controverses. Et il nous proposait hier d'aller vers la constitution de standards dans la progression, dans le développement professionnel des jeunes dans le métier. Et il me semblait, j'en discutais à la pause avec le collègue, mais il me semblait que dans les controverses, il y avait quelque chose d'intéressant, au sens où on ouvrait justement des espaces de possibles entre les positions des différentes personnes. C'est-à-dire que les positions des différentes personnes n'étant pas justes ou fausses, mais étant des possibles dans un espace qui s'agit de réouvrir non pas pour se dire tout est bon et il y a aucun repère, mais pour se dire on peut s'autoriser à expérimenter, à aller dans ces espaces là sans être justement dans une réduction à des standards qui seraient intangibles, quoi. Du coup, j'ai une question sur la question de la renormalisation, parce que alors est-ce que c'est une renormalisation qui aboutirait à des standards? Ou est-ce que c'est un processus sans fin de renormalisation, quoi? Le périmètre du possible est à réinterroger en permanence, quoi. Voilà.
Bon, affûter les arguments pendant qu'on finit le tour.
Alors, pour ma part, enfin pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à la fin, il y a aussi à réinterroger ça avec les partenaires. Parce que on peut, enfin, dans les propositions que vous nous faites, enfin, par rapport à mes questions professionnelles, je vais essayer d'être claire, en tant que conseillère pédagogique, donc j'ai eu à accompagner une équipe d'une école de REP pour et la demande de dans un stage d'école, la demande était d'articuler, de construire une cohérence entre les différents dispositifs, les mille feuilles, le PRE, l'accompagnement éducatif, le coup de pouce, l'aide personnalisée, le RAZ, et on en passe, et des meilleurs. Et on a tenté une rencontre au cours de ce stage avec le PRE. Et effectivement, c'est très très difficile de se mettre en cohérence, d'harmoniser. Et alors ce qui est absolument difficile pour les équipes d'enseignants et puis pour les conseillers pédagogiques, c'est de voir à quel point on construit une décohérence et enfin à quel point on met les enfants dans des milieux fragiles, dans des situations de non-compréhension de ce qui leur arrive, avec ces différents intervenants, avec ces dispositifs qui sont hors école, qui se passent dans l'école. Il y a aucune lisibilité, il y a aucune mise en mots avec les enfants pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe, à quelle heure, comment, avec qui, pourquoi, dans le même lieu où j'ai déjà fait l'aide personnalisée, c'est quelque chose, moi c'est quelque chose qui m'a, enfin cette prise de conscience hein, m'a vraiment touchée, et je n'ai pas d'outils pour aider mes collègues. Mis à part, bon, dans la proposition que vous nous faites, je pense qu'on peut, enfin, j'ai été très intéressée par les pistes proposées, donc sur les entretiens d'autoconfrontation. C'est un moyen d'action qu'on peut utiliser avec les enseignants dans le cadre de l'aide personnalisée de la formation continue, si tant soit qu'on en ait encore un peu. Mais on n'a absolument pas d'outils, je veux dire, devant. On a essayé de discuter avec les gens du PRE, mais ce n'est pas possible. On a essayé de mettre en place avec les collègues de faire des fiches méthodologiques pour l'aide aux devoirs, hein, pour essayer que les enseignants puissent expliquer ce qu'ils attendent de ces personnes qui aident, mais voilà, avec toutes les limites que ça peut avoir, etc. Voilà, donc. Je suis dans une frustration d'absence de. Enfin, je comprends bien la complexité, le questionnement, et je suis rassurée de voir qu'il y a des gens qui travaillent et qui réfléchissent à ces problèmes. Mais actuellement, on a des enseignants dans des difficultés, dans des situations quand même extrêmement complexes et difficiles.
C'est en réaction à l'échange et à la réponse à la collègue, mais ce n'est forcément pas une réponse complète. Peut-être qu'avant de renvoyer... Enfin, effectivement, il y a des logiques très différentes entre la politique de la ville et les enjeux du PRE et les enjeux de l'éducation nationale. Mais par ailleurs, peut-être la première chose, ce serait de faire un travail réflexif avec nos collègues sur ce que ça veut dire que donner des devoirs et dans quelle situation ils mettent les gamins. Parce qu'effectivement, si déjà on arrivait à questionner ça, peut-être qu'on mettrait pas en porte-à-faux complet des gens qui sont plus sur l'accompagnement social et qu'ont des raisons complètement objectives d'être là. Mais effectivement, on les met dans des situations complètement de porte-à-faux. Donc, je souscris complètement, Patrick, ce que tu dis sur la nécessité de se rencontrer les gens pour bien savoir, parce que pour pouvoir faire du partenariat, il faut savoir de quoi on parle et d'où on part et quelle est sa mission. Si on ne sait pas quelle est sa mission chacun, on ne peut pas bosser ensemble. Et souvent, on bosse dans la conflictualité. Pas le conflit, c'est pas la même chose. Et la conflictualité, il faut arriver à l'assumer pour effectivement construire et pas mettre, comme d'habitude, les autres au service de nous. L'éducation nationale. Alors, c'est vrai que moi aussi, hein, j'ai encore les deux casquettes à des moments donnés.
Alors, peut-être par rapport aux personnes qui étaient là en février, il se peut que le cordeau de mon RRS en ait déjà parlé, Stéphane Cus, qui était là donc lundi matin, pour ceux qui étaient là lundi. Donc, dans la circo où je travaille, à partir d'un travail où on voulait justement harmoniser le PRE, toutes les maisons de quartier, essayer de justement de faire de ce millefeuille quelque chose de plus lisible, on est parti de ce constat-là. Je me recule parce que du coup ça fait c'est l'ordinateur qui fait ça. Donc on est parti du fait que il y avait tellement de dispositifs que même les professionnels ne s'y retrouvaient pas. Donc dans un premier temps, un petit livret mais à destination des professionnels a été édité avec tous les types de dispositifs qui existaient. Et puis, fort de ça, la discussion est venue sur les éducateurs des maisons de quartier qui disaient, mais nous, il faut qu'il y ait des devoirs parce qu'après, les parents, on a une pression des parents. Il y a eu tout ce travail, toute cette réflexion qui a été menée autour du travail scolaire hors la classe. Et donc à l'issue de ça, un grand deuxième temps de réflexion a été mené avec donc les trois collèges de la commune, puisque la circonscription est rattachée à une commune. Donc les trois personnels de direction des trois collèges plus l'équipe de circonscription a mené une réflexion sur ce que pouvait être le travail personnel, les devoirs, mais on a préféré appeler ça le travail personnel des élèves. Et donc, à partir de là, est sortie une note de service dans les trois collèges et auprès de tous les enseignants de la circonscription, d'abord pour réfléchir à ce qu'on donnait, ce qu'on ne donnait pas, comment on le faisait, etc. Alors maintenant, ça émergeait là en début d'année scolaire. Au niveau du primaire, c'est beaucoup mieux passé qu'au niveau du collège où les principaux et leurs adjoints sont vraiment en accord avec notre réflexion, mais encore au niveau des professeurs, ça c'est pas encore passé, mais le fait que à l'échelle d'un petit territoire il y ait une unité, ça a permis, je pense, de donner beaucoup de cohérence. Et puis après, donc au niveau après des gens qui nous relaient sur le terrain hors la classe, ça a apporté de l'eau à leur moulin en disant voilà ce que nous on nous dit de faire et voilà dans quel cadre on peut se situer. Et donc j'ai la lettre de cadrage qui est sortie, donc je pourrais vous en faire part si vous le voulez. Mais le fait voilà d'avoir mis de la cohérence au niveau du secondaire et du primaire, ça a été un point à mon sens très positif.
Moi, je prends le micro de quelques instants. Il me semble, sur les dispositifs qui ont été abordés, l'aide personnalisée en particulier, et l'accompagnement éducatif ou le contrat local d'accompagnement à la scolarité, ce qu'on appelle l'aide au devoir, mais pour moi, c'est pas forcément que de l'aide au devoir. Il y a quand même deux différences. Sur l'aide personnalisée, c'est que il s'adresse à des élèves qui sont repérés, c'est pas le bon mot, mais choisis, entre guillemets, pris dans un contexte et retenus. L'aide au devoir, le classe ou l'accompagnement éducatif est un dispositif qui s'adresse au plus grand nombre, c'est ça dans l'esprit, et à qui veut bien s'y inscrire. Donc on est sur deux stratégies, me semble-t-il, différentes. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, effectivement, c'est la relation qu'il peut y avoir entre le scolaire et le hors scolaire, Et là, il me semble, bon, j'ai fait 12 ans dans une fédération d'éducation complémentaire de l'école, se pose la question, éduquer c'est quoi? Et on se l'est posé. Les fédérations complémentaires de l'école se les posent, c'est-à-dire quelle relation avec l'école, quelles sont les missions de l'école. Et je crois qu'on est entre l'évolution du métier d'enseignant et l'évolution des missions de l'école, c'est quelle porosité y a-t-il entre l'institution et le monde sociétal qu'il y a autour et les gens qui peuvent intervenir sur l'éducation des enfants. Et ça, il me semble que où se trouve l'espace de négociation, parce qu'il me semble qu'il y a cet espace-là qui manque, le temps de discussion entre, on l'entend, entre les acteurs, qu'ils soient associatifs ou municipaux, puisque c'est la plupart des gens, aussi des employés municipaux qui interviennent sur ces moments-là. Ça, je pense qu'il faut peut-être se reposer des questions, et s'il n'y a pas cet espace-là, faut-il peut-être le créer, hein, un tiers-temps, un quart-temps, j'en sais rien. Et l'autre aspect, moi, il me semble important, qui n'apparaît peut-être pas suffisamment, mais peut-être qu'on en parlera cet après-midi, c'est quand même les familles. Parce qu'aujourd'hui, quand même, enfin, les enfants qui sont à l'école et qui sont après à l'aide aux devoirs, qui sont après au sport, enfin, les gens passent, c'est bien, ils ont bien des parents et que font, enfin, quel est l'espace qui est réservé, quel est l'espace de concertation qu'il y a avec la famille et d'échange, avec la famille avec un F majuscule dans ce système-là. Voilà, enfin, c'est des questions qui me viennent à l'esprit et qui me semblent sont transversales dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit sur du pilotage de PRE et que j'en passe, parce que quelque part il y a aussi une espèce de concertation, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais il me semble que ça manque ça. Voilà.
Je veux reprendre j'ai trouvé un texte dans les tableaux de l'instruction publique qui a été la première grande inspection en France des écoles primaires avant donc Jules Ferry, et dans ce texte qui est accessible par internet, j'ai trouvé le texte suivant, l'écrit suivant. On se rabat donc souvent, donc ce sont des inspecteurs qui visitent des écoles et qui font un rapport au ministre. On se rabat donc souvent, surtout jusqu'en 1833, sur la vieille méthode individuelle, qui était celle du préceptorat. Le maître fait travailler un élève, oui, un seul à la fois. Pendant ce temps, quelques autres s'entraînent à déchiffrer ou gribouiller, mais la plupart, livrés à l'ennui, à la dissipation et même au désordre, jouent, somnolent ou se chamaillent. En 1824, à Morlaix, 12 instituteurs sur 14 pratique cette funeste habitude de l'enseignement individuel, qui est depuis longtemps réprouvée par tous les hommes raisonnables, écrit le ministre de l'Instruction publique en 1829.
Bon, quelques points pour poursuivre la discussion. Alors, par rapport à la dernière intervention, il y a un texte aussi d'Anne-Marie Chartier, puisque vous la citez, en 1999 dans le pavé qui s'appelle Hermès, et qui a écrit quelque chose concernant les dispositifs. Donc là aussi, il y a peut-être une approche du point de vue pédagogique de comment, à la lumière et à la lecture de Michel Foucault, comment elle retravaille cette approche des dispositifs. Bon, voilà une petite information. Alors, évidemment, pour rebondir là sur les questions notamment de lisibilité dans ce millefeuille, hein, je crois que... justement, si on reprend la définition que Anne-Marie Chartier prend et reprend de Michel Foucault dans cette idée d'un ensemble d'éléments hétérogènes, je crois que de par ces éléments hétérogènes, je dirais que à la fois c'est ce qui rend difficile sa description et sa possibilité d'en rendre compte, mais à la fois c'est aussi parce que ce sont des éléments hétérogènes en réseau qu'il y a une existence entre des éléments hétérogènes qui n'auraient pas eu lieu sans cette mise en réseau et donc sans la présence du dispositif. Donc il y a vraiment les deux aspects. Sur la question de la lisibilité, nous dans notre équipe, et ce qu'a dû probablement expliquer Frédéric Soja mardi, c'est que nous intervenons à la demande, hein, des professionnels à chaque fois qu'ils imaginent qu'il y a soit une crise aiguë, soit qu'ils souhaiteraient se voir accompagnés pour le coup, et donc se voir seconder justement dans la possibilité de mieux comprendre le travail qu'ils font au sein de ces dispositifs. Et moi, il me semble là, hein, c'est un premier point que je mets en débat avec vous, hein, il me semble qu'il ne suffit pas de permettre aux gens de se rencontrer, et il ne suffit pas non plus de demander et d'avoir un temps de réflexion pour qu'on puisse construire quelque chose qui soit, efficace, hein, du point de vue du travail. Je crois que ce qui ressort du travail que nous poursuivons depuis pas mal de temps, c'est que, évidemment, il faut un temps, il faut un espace, hein, c'est ce que disait Patrick tout à l'heure en faisant référence probablement à d'autres sociologues, mais il faut organiser un milieu de travail. Il faut organiser un milieu de travail, il suffit pas de mettre les gens ensemble pour qu'ils se mettent au travail et qu'ils produisent quelque chose. Il faut donc organiser un milieu de travail. Je pense qu'il y a plusieurs objets et plusieurs manières d'organiser ce milieu de travail. Le choix que fait l'équipe ERGAP, c'est effectivement de pouvoir, s'intéresser de près, hein, au travail réel des acteurs. Et de plusieurs manières. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je vous ai présenté ces dispositifs, je vous ai dit il y a une espèce de double racine, hein, à la fois l'analyse des prescriptions et l'autre l'analyse de l'activité. C'est pas pour rien que je vous ai dit ça, parce que il me semble que pour permettre cette lisibilité, l'analyse que nous faisons justement, parce qu'on travaille en étroite collaboration avec d'autres collègues et d'autres labos, hein, c'est d'imaginer que pour lire ce réseau et ce millefeuille, hein, il y a peut-être, je veux le dire rapidement comme ça, à trois niveaux, hein, macro, méso, micro. Le macro, c'est bien entendu l'étude, je dirais, des prescriptions. Et là, il y a un énorme travail à faire, hein, sur les textes prescriptifs. Comment ils parlent de la difficulté ? Alors, par exemple, là, on est en train de faire un travail, hein, sur comment, depuis les années 70, pour chacun des dispositifs, parce que je crois que ce qu'il faut essayer de bien comprendre, c'est que dans le schéma que je vous ai montré, hein, qui est en cours de réalisation, c'est essayer d'instruire chacun de ces dispositifs. C'est-à-dire de regarder dans le détail et de manière exhaustive, alors bon, ça fait toujours sourire Patrick quand je dis ça, de manière exhaustive, quels sont les textes prescriptifs qui viennent prescrire et organiser ce dispositif, mais aussi, hein, quels sont les discours qui sont tenus, quels sont les énoncés scientifiques, ça repose sur quoi ? Tout à l'heure, vous avez bien vu, hein, je le dis de manière très caricaturale, mais évidemment, hein, comment dans les centres de formation, par exemple, on va prescrire une certaine méthode constructiviste, où finalement, il est de bon ton pour aider les élèves de mettre en place des situations de résolution de problèmes, et où finalement, ce qui aide réellement l'élève, hein, c'est quand même qu'il puisse construire tout seul son savoir, hein, peut-être éventuellement à l'aide de fiches, voyez, et d'outils, et l'enseignant serait simplement là le médiateur de cela. Bon, donc vous voyez là aussi des discours, des idéologies. Qu'est-ce qui accompagne ces dispositifs ? Et ça, je crois que les énoncés scientifiques, mais aussi les discours. Et aujourd'hui, ce dont il était question l'autre fois, c'est que ces discours sont extrêmement nombreux. Ils sont nombreux, péremptoires, et ils sont très contradictoires. C'est-à-dire qu'en même temps, vous voyez bien là que ces deux collègues, les uns, je vais dire, se réfère plutôt à cette espèce de doxa constructiviste que l'on connaît bien. Et puis, de l'autre, on a Rodolphe, hein, un peu dans la provocation, hein, c'est un enseignant provocateur, hein, qui est plutôt du côté, eh ben oui, pourquoi pas, oui, du behaviorisme ou de l'enseignement explicite, vous voyez, quand on sait, là aussi, hein, combien ça soulève de controverses et combien, en tous les cas, en France, hein, on s'est insurgé contre ce texte, notamment, Bernard Rey, qui avait eu à s'exprimer là-dessus, hein, en disant que c'était pas possible d'imaginer qu'on puisse faire travailler de manière efficace les élèves simplement en pensant qu'il suffisait de montrer, hein, ou de mettre une espèce de haut-parleur, hein, dans le cerveau de l'enseignant pour mettre à nu les procédures et les techniques. Bien. Donc il y a, je reprends, hein, tout un travail qui est un premier travail, qui est un travail macro, c'est-à-dire sur l'étude des textes prescriptifs et l'évolution de ces textes. Comment on parle de la difficulté scolaire ? Quelles sont les préoccupations là des politiques ? Et elles bougent, ces préoccupations. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, le travail personnel, ne vous en déplaise, c'est quelque chose que vous avez beaucoup de mal à trouver dans les textes prescriptifs aujourd'hui. Bon, pourtant, tout le monde sait encore, hein, que c'est un des vecteurs de la réussite scolaire. Bon, c'est plus à la mode, on parle plus de ça. Bien. Donc, un premier niveau. Un deuxième niveau qui est le niveau méso. Alors, ce niveau méso, je dirais que lui aussi, il peut se diviser en plusieurs branches. Le niveau méso, c'est l'académie. Nous, comment Monsieur de Godemar, notre recteur, a décidé déjà d'opérer un premier tri parmi l'ensemble des prescriptions. Hein, il va donner des priorités. Quelles sont les priorités que l'académie et le rectorat donnent dans l'ensemble, hein, et cette pléthore de prescriptions? Et puis le niveau méso, je dirais, il se fait au sein de chaque établissement. C'est pas encore le niveau micro, ça. Ça, c'est toujours le niveau méso, c'est-à-dire comment chaque établissement, avec toute son équipe, le principal qui a de plus en plus de pouvoir, entre guillemets, ou la directrice et le directeur d'école primaire, le secrétaire du comité exécutif, les conseillers PEDA, bon, etc. Toute l'équipe là, l'IPR référent, les professeurs référents qui sont déchargés pour une grosse partie de leur temps de travail disciplinaire et qui vont œuvrer dans ces dispositifs. Voilà. Comment ces équipes-là, je dirais, renormalisent, je réemploie le terme, hein, renormalisent finalement les prescriptions, comment elles se donnent de nouvelles normes pour agir et pour essayer d'organiser leur travail et celui de leurs élèves. Voilà, donc ce niveau méso, je pense que lorsque nous intervenons en tant qu'équipe d'intervention recherche, hein, lorsqu'on intervient avec Fred Soja et d'autres collègues, je pense qu'il y a déjà un premier travail de notre part de la connaissance des textes nationaux, mais il y a tout ce travail de reformulation et de travail avec, je dirais, les cadres, hein, IPR référent, directeur, principal, pour voir comment, à partir d'eux, on renormalise le travail et quelles sont les préoccupations et les organisations qu'ils donnent au réseau. Et ensuite, il y a un niveau plus micro, je vais vite là aussi de manière caricaturale, hein, mais c'est tous les enseignants qui demandent qu'on intervienne dans leur classe en mettant en route ce dispositif que vous avez entreaperçu, hein, qui consiste donc à aller filmer dans leur classe et ensuite à confronter, à autoconfronter les enseignants entre eux pour refaire du métier. Je crois que si je devais le dire vite pour pas abuser de mon temps de parole, c'est renormalisation, c'est pas du tout dans le sens de donner une norme comme les écoles normales, hein, mais c'est renormaliser en ce sens-là, c'est-à-dire permettre de construire des valeurs communes pour pouvoir continuer d'agir et redonner du pouvoir d'agir aux équipes. Alors, juste sur cette histoire de dilemme, hein, mais on aura l'occasion probablement d'en reparler, moi je définis cette question de controverse à partir des dilemmes professionnels. Je crois que si on veut essayer dans ce niveau micro de donner et de travailler dans le sens d'une lisibilité, d'une meilleure compréhension et visibilité de ce qu'il y a à faire, c'est essayer de voir quels sont les dilemmes, c'est-à-dire les invariants du métier. Dans cette espèce de millefeuille que je vous ai présenté, je m'attache vraiment à aller regarder, que ça soit en aide au travail personnel, que ça soit dans le cadre des PPRE, et Dieu sait qu'au collège il y a des manifestations et des interprétations de PPRE multiples et variées, hein, dans tous les dispositifs, y compris dans les CLIN, dans les CLIS, voilà, des invariants historiques, non pas au sens de réponse et donc de bonne pratique, mais au sens de questions. Quelles sont les questions récurrentes qui se posent au métier, hein, qui se posent au métier et que les équipes vont avoir à traiter? Comment elles les traitent? Donc, si vous voulez, la réponse, elle est locale ici et maintenant avec l'équipe, mais ce qui est, je dirais, plus générique, hein, si on devait employer ce terme-là, c'est bien évidemment ces dilemmes, c'est-à-dire les questions qui se posent au métier. Donc, il y a une dimension historique et pas de conservatoire, pas au sens figé, mais au sens vraiment de dynamique et de processus, parce que ces invariants, ils sont, j'ai envie de dire, renouvelés dans les contextes de travail et de situations inédites. Donc à la fois, il y a des questions, hein, je vous ai dit, des débats anciens, mais qui sont sans arrêt, sans cesse renouvelés par les situations locales de l'établissement dans lequel vous intervenez et les collègues avec lesquels vous intervenez. Donc il y a en fait quelque chose qui traverse, hein, une espèce de dimension transpersonnelle de ces dilemmes, et à la fois une dimension, je dirais, tout à fait interpersonnelle, c'est-à-dire les gens qui travaillent entre eux. Et puis le dernier niveau micro, hein, qui serait une dimension personnelle, c'est-à-dire comment moi, dans ma classe, tout seul, à partir du travail collectif que j'ai pu faire avec mes collègues, je me réapproprie, je renormalise, hein, mes propres prescriptions pour organiser mon travail et mon aide personnalisée, comme le fait Rodolphe. Renvoyer de nouveau à une dimension collective, puisque ensuite ça ferraille, hein, entre Rodolphe et Maurice, et hier, je vous assure qu'en ayant passé la journée avec eux, ça bouge, hein, ça ferraille dur. Donc là, l'idée, c'est pas tellement le travail personnel, c'est pas la TP, c'est pas l'aide personnalisée, c'est au-delà de tout cela, quelles sont les questions qui sont renvoyées au métier? Un métier, Fred vous l'a dit, hein, qui est probablement un peu en panne en ce moment. Comment on peut refaire du métier pour permettre aux gens, finalement, de sortir de cette situation où ils sont totalement démunis, pour pouvoir reprendre la main sur ce qui est leur contrainte. Hein. Vous voyez, ça, sur ce millefeuille-là, l'idée derrière, hein, c'est de pouvoir cliquer et sur des liens hypertextes derrière, par exemple, ATP, derrière PPRE, derrière aide personnalisée, qu'il y ait justement, des dilemmes professionnels qui sont ceux de l'équipe Saint-Charles, ceux qui sont du collège Henri Ballon, mais où on retrouve là des questions de métier qui permettent ensuite d'être travaillé par exemple en formation pour à nouveau s'approprier cela et pouvoir refaire ensuite au sein de son équipe dans le contexte particulier de son établissement, pouvoir refaire du métier. Bon, c'est peut-être très ambitieux, voilà, c'est un peu l'idée.
Je vais essayer de ramasser quelques-unes des questions aux interventions qui ont été faites à propos de ma propre intervention. Il y a beaucoup de couples qui sont posés dedans, dehors, internalisés, externalisés, les professeurs ou d'autres acteurs, etc. J'ai tendance à penser que si on veut sortir d'oppositions qui sont parfois des alternatives un peu vaines, il faut essayer de comprendre d'où viennent les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à penser qui viennent d'une espèce de confusion qu'on a fait dans notre système sur la nature de la forme scolaire. Alors, je renvoie là au concept de Guy Vincent, où on a tendance à assimiler le fait que faire l'école, c'est le faire selon des modalités d'apprentissage qui ne sont pas quelconques, qui sont des modalités particulières. Je crois que là, il y a accord et que si on lit les travaux d'anthropologues, je pense à quelqu'un comme Elsie Rockwell, on voit comment, depuis très longtemps, et même avant le XVIIe siècle dont parle Vincent, il y a des tablettes assyriennes qui nous montrent des gamins qui ont à faire des exercices en gravant eux-mêmes sur des tablettes et en apprenant l'art du scribe et qui se font fouetter parce qu'ils n'ont pas bien fait leur devoir à la maison. Donc le malheur des élèves, ça vient de très très loin. Mais je crois qu'il y a une différence entre le fait qu'il y a une forme scolaire, par exemple, le fait qu'il y a une forme scripturale scolaire, on voit ça chez les Assyriens, et le fait que l'école qui s'est mise en place chez nous au 19e siècle serait la seule forme possible d'école. Il y a là, je crois, une contagion importante, et notamment sur la question de la délimitation du dedans et du dehors. Parce que ce qui me paraît faible, fragile dans la question du travail à la maison, c'est qu'il y a une espèce de double mollesse. Il y a une mollesse de caractère cognitif, au sens où quand on interroge les enseignants, et Glassman l'a très bien fait, et y compris il a trouvé ça dans la littérature internationale, et pas simplement en France, on voit que les enseignants déclarent pour le travail à la maison, le travail hors la classe, des objectifs extrêmement différents, qui peuvent aller de la pure et simple répétition, de la pure et simple fixation, jusqu'à des travaux d'exploration, jusqu'à de la recherche, jusqu'à des activités punitives pour la classe. Enfin, l'éventail s'ouvre extrêmement largement, et on appelle tout ça travail. Donc, la tâche elle-même, elle est très hétérogène. Comment voudrait-on que les acteurs, ça rejoint des interventions qui ont lieu ici. Comment voudrait-on que les acteurs se mettent d'accord sur des tâches qui sont hétérogènes, et y compris lorsque c'est une même tâche, quand il peut y avoir des conflits didactiques dans une même discipline entre plusieurs enseignants. Donc ça, c'est le premier point. Je crois que là, il y a quand même sans doute un travail de clarification qui s'impose, à ne pas faire comme si ça allait de soi, que travailler, c'est travailler. Mais du coup, du fait qu'il y a cette hétérogénéité, ce flou dans les tâches, et que l'école républicaine a voulu, pour des raisons politiques, que ces instigateurs ont toujours très clairement revendiqué, couper la société au communautarisme, aux forces venant de l'extérieur, à la possibilité de récupérer la révolution qui avait été faite historiquement par une hégémonie culturelle qui se manifestait à travers les éducations familiales. Donc là, on est devant un projet politique très clair qui a une réussite merveilleuse. Donc j'ai tendance à penser qu'il arrive au bout de sa fécondité aujourd'hui dans une situation qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était à l'époque. Donc on a une double zone de flou. On a une zone de flou sur les objectifs cognitifs, mais on a une zone de flou aussi sur qu'est-ce qu'il y a entre l'école et ce qui n'est pas elle ? Et est-ce que la fermeture entre l'école et ce qui n'est pas elle est ce qu'elle était autrefois ? Dans mon laboratoire, nous parlons de porosité de la forme scolaire et nous essayons de montrer qu'à la fois, il y a eu une espèce de grande réussite de la forme scolaire qui s'est étendue à l'ensemble du social, ce qui n'a pas été le cas à l'époque où les gamins faisaient encore les travaux des champs, où il fallait les chercher pour les amener à l'école, et À l'inverse, le fait que nombre de comportements ou de préoccupations sociales sont désormais entrés à l'école jusqu'à inquiéter les matrices curriculaires, pour parler comme Martinan, et par exemple le fait que les éducations à l'environnement durable, à la conduite routière, à tout ce qu'on peut imaginer, au goût, etc. La note de vie scolaire, l'histoire des arts sont en train de se mélanger à des matrices disciplinaires extrêmement classiques, qui avaient des corps formés et recrutés pour ça. Donc on est dans une période de brouillage, mais qui n'a rien en soi de condamnable à mon avis, mais dont on a du mal à prendre acte et par rapport à laquelle, si on essaie de parler en termes de dedans et dehors comme autrefois, on ne va jamais aboutir à quelque chose. Ça, c'est ce qui me paraît pour moi la boussole, hein, qui permet de se réorienter dans ce monde un peu compliqué. Dans nos entretiens, on a trouvé ça très vite. Dès que les enseignants qui étaient interviewés se révélaient aussi être des parents. Parce qu'ils avaient une première partie de discours qui disait « les devoirs, c'est très simple, nous on les donne et il n'y a qu'à ». Et il disait, mais oui, mais nous, quand on aide nos propres enfants à faire les devoirs, les collègues, quand même, ils exagèrent, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils demandent des choses qu'ils n'ont pas données, on y passe jusqu'à pas d'heure. Donc, c'était très intéressant de voir cette espèce de schizophrénie en acte, qui nous montrait comment la même personne avec le double statut avait des pans de discours qui ne se raccordaient absolument pas, dans une espèce de flou qu'on entretient chacun, puisqu'on a la plupart d'entre nous ici étaient à la fois enseignants et parents d'élèves. Et si on essaie de faire se raccorder les morceaux, au fond, on le fait sur le mode de l'individualité. C'est parce que ces profs-là ne font pas bien leur boulot, mais idéalement, ils devraient bien le faire. Je ne suis pas sûr que si on fait la sommation de tout ça, on n'est pas la carte de France des modalités du procédé. J'ajoute à ça que dans un système républicain dans lequel cette fermeture s'évolue aussi importante, hein, renforcée aujourd'hui par Vigipirate, un certain nombre de dispositifs qui empêchent que les univers communiquent, une des rares fenêtres qui a été donnée aussi bien aux enseignants pour regarder dans les familles qu'aux familles pour regarder dans ce que font les enseignants, c'est ce qui circule entre l'école et les serveurs d'école. Et qu'est-ce qui circule entre l'école? Il y a une chose, c'est le travail à la maison. Donc, je crois que cet objet est surinvesti et difficile à analyser de manière un petit peu factuelle, voilà, de manière un peu désacralisée, laïque pour tout dire, parce que il est chargé d'une mission historique qui dépasse très largement les objectifs cognitifs des élèves, lesquels ne sont par ailleurs pas clairs. Hein. Donc, si on prend tout ce paquet-là, il me semble qu'on a un peu la problématique d'ensemble et que ça peut aider à travailler. Alors, à travailler comment ? Notre collègue qui est pas là, mais elle a raison. Il est vrai que j'ai glissé très très vite sur la question de l'accompagnement des devoirs pour une raison très simple, c'est que si bien compris l'enquête de l'inspection sur l'accompagnement éducatif, on se rend compte que je crois 90% de ce qu'on trouve dans l'accompagnement éducatif, c'est pas le sport, c'est pas tous les autres dispositifs qui ont été prévus, c'est l'aide aux devoirs. Donc moi j'étais pas dans l'idéal, j'étais en travail de sociologue, c'est-à-dire sur ce qu'on voit dans les vraies pratiques, et c'est ça à mon avis. Alors ça ne doit pas obérer les objectifs pédagogiques qui sont derrière, bien sûr, mais là il s'agit de regarder ce qui se fait et de s'intéresser à la majorité des cas. Et lorsqu'on parle d'accompagnement à la scolarité, c'est une expression merveilleuse qui a été trouvée, je pense, pour déminer les situations. En réalité, on est dans l'accompagnement de la scolarité et pas à la scolarité, et dans une façon d'essayer d'aider les élèves à faire les devoirs. Donc voilà, mes glissements, ils viennent de là. Et le troisième point sur lequel je voudrais dire juste une chose, c'est que le dedans et le dehors ne sont pas, de mon point de vue, des catégories ni naturelles ni immuables. C'est, je crois, à quoi faisait allusion Patrick Picard. On peut avoir du dehors à l'intérieur du dedans. Lorsque Claude Allègre, qui ne fait pas que dire des bêtises sur le climat, lorsqu'il a dit il faut que l'école soit elle-même son propre recours, il y a là une formule qui, je crois, prenait acte de ses effets pervers d'externalisation du travail et de la volonté de réimporter dans le giron scolaire ce qui, d'une certaine manière, n'aurait sans doute pas dû en sortir, et d'autant moins en sortir que les élèves qu'on a scolarisés étaient d'autant moins autonomes et autonomisés dans leur propre famille. On a une espèce de chasse et croisée historique qui, pour l'observateur qui regarde de Mars, est absolument effarant. C'est qu'on a d'autant moins donné les instruments de travail autonome aux élèves qu'ils les acquéraient pas chez eux. Il y a là quelque chose qui fera un jour rigoler, je pense, les historiens. C'est une histoire assez énorme. Donc, alors, on a dit l'école est son propre recours, et donc on a internalisé ce qui était externalisé. Mais on peut parfaitement réexternaliser l'interne. c'est ce qui s'est passé, je crois, dans le primaire, lorsque ce sont d'autres personnes qui interviennent avec d'autres présupposés. Non, c'est pas l'unité de lieu, c'est pas comme au théâtre. C'est l'unité de processus qui doit, je crois, nous intéresser. C'est-à-dire, le seul point qui ne bouge pas, de mon point de vue là-dedans, c'est les élèves et les processus d'acquisition des élèves. Or, c'est en les regardant travailler, c'est en les faisant travailler qu'on est capable de suivre la... Pour ça, dans l'accompagnement, à mon avis, ce qui fait la transversale, c'est les élèves et là où ils vont. Et je crois que hors de ça, point de salut. Là, je suis un peu doctrinaire, mais on en a eu un exemple tout à l'heure. Moi, je crois qu'il y a une notion qui devrait être travaillée, c'est la notion de paradidactique. Si j'ai bien compris, c'est des choses qui sont nécessaires pour faire une tâche, mais qui ne sont pas nécessairement apprises comme telles et pas nécessairement apprises dans la classe. Lorsque Rodolphe reprend une élève qui, en répondant à la question, lit la phrase du texte, il dit « c'est pas comme ça qu'on répond ». Alors, il ne s'attarde pas. Il pourrait peut-être expliciter, néanmoins, je trouve qu'il met le doigt sur quelque chose de très important. Il est en train de dire à cette jeune fille, il y a une manière de répondre à l'école qui n'est pas forcément la manière dont on répond ailleurs, qui est le jeu réglé de ce contrat didactique. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, pour nos enfants, quand nous sommes parents et professeurs, et que nous travaillons avec eux, nous leur enseignons ces manières de dire, voilà, on peut estimer qu'un exercice, il est fini à partir de tel moment. On peut estimer que sur Internet, on y va de cette manière-là. On peut estimer que répondre à une question scolairement, c'est de telle manière plutôt que de telle autre. Or ça, ça n'est jamais enseigné par les enseignants. Pourquoi ? Parce que ne voyant pas les élèves travailler, ils n'ont aucune idée de l'enseigner. Et d'ailleurs, le ferait-il ? Il le ferait sur le mode abstrait de la méthodologie dont j'ai tendance à penser qu'elle n'est d'à peu près d'aucun secours lorsqu'elle est décontextualisée, les élèves n'ayant aucune envie d'apprendre. Voilà, bon, je crois qu'on est d'accord avec ça.